Les Années-Lumière, édition du 4 octobre 2009. L'école est-elle décrochée des réalités des élèves et de leurs besoins ? La réponse dans le bar des sciences, Radio-Canada Québec Science. Bonjour, ici Yannick Villieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Ce bar des sciences, donc, c'est en deuxième heure que je vais vous le présenter. En fait, il va occuper toute la deuxième heure de l'émission. Mais la première heure, elle commence avec vous, Chantal Srivastava, et avec les catastrophes naturelles qui ont frappé l'Asie cette semaine.
Séismes et tsunamis, Yannick. Pourra-t-on un jour les prévoir? Toute une question pour les scientifiques.
Sophie-André Blondin, vous avez pris un coup de vieux cette semaine.
Mais vous aussi, Yannick, tout comme Chantal, même Hugues. En fait, l'humanité a pris un coup de vieux avec la description du plus ancien squelette d'hominidé, Ardipithecus ramidus, qui force à revoir les théories sur l'ancêtre commun entre l'homme et le singe.
Il y aura ensuite le courrier des années-lumière. Hugues de Roussan, une question en nutrition.
Oui, la question cette semaine provient d'une auditrice de Magog, Isabelle Audet, qui voudrait savoir s'il faut adopter un régime alimentaire particulier en fonction de son groupe sanguin.
Et nous terminerons la première heure avec la chronique des années-lumière. Cette semaine, Hervé Fischer réfléchit à un double 40e anniversaire, le 40e anniversaire de la première liaison entre deux ordinateurs et aussi le 40e anniversaire de la naissance de la souris informatique, vous me comprenez bien. Mais pour commencer donc, les catastrophes naturelles. Alors, dure semaine en Asie, hein, Chantal, où les éléments se sont déchaînés, tremblements de terre, tsunamis, typhons, les catastrophes naturelles se sont alignées les unes après les autres, et les ravages se font, bien sûr, sentir.
Oui, bien sûr, Yannick, puisqu'on compte au moins 1 000 000 de morts en Indonésie à cause de ce séisme qui a atteint 7,6 sur l'échelle de Richter et qui a frappé mercredi. 24 heures plus tôt, la Terre a également tremblé dans le Pacifique Sud, provoquant un tsunami ou un raz-de-marée qui a tué au moins 150 personnes dans les îles de Samoa, un chapelet d'îles situé dans le Pacifique Sud, à mi-chemin entre la Nouvelle-Zélande et Hawaï. Et ajoutez à cela le fait qu'on est en pleine saison, des typhons, des tempêtes tropicales. Donc, vous avez vraiment la totale.
C'est le cas de le dire, ouais. Sauf que dans le cas des typhons, Chantal, on peut quand même voir venir, on peut prévoir, hein, ce qui est loin d'être le cas, évidemment, pour les fameux tremblements de terre.
En effet, bien malin qui peut prévoir quand la Terre va trembler. On sait bien sûr qu'il y a des lieux plus propices aux tremblements de terre, comme par exemple le long de cette fameuse ceinture de feu du Pacifique qui borde l'océan du même nom. C'est d'ailleurs dans cette zone que la Terre a tremblé cette semaine. On trouve là-bas des points de jonction entre des plaques tectoniques, des failles qui peuvent céder sous la pression lorsque tout cela bouge au gré des mouvements du manteau terrestre. Les zones à risque, donc, on les connaît. Mais là où ça se corse, c'est qu'on n'a aucune idée du moment où la pression, le stress seront tels que l'énergie qui est accumulée là sera libérée subitement pour provoquer un tremblement de terre qui peut à son tour causer un tsunami selon la profondeur à laquelle le tremblement a lieu s'il se produit sous l'eau.
Oh, bien sûr. Alors, un autre élément qui intrigue les chercheurs, c'est de savoir jusqu'à quel point les tremblements de terre sont reliés entre eux. Hein?
Et oui. Ça, c'est une question qui a été étudiée par une équipe américaine qui vient de publier ses résultats cette semaine dans la revue Nature. Ils ont analysé 22 ans de données fournies par des sismographes hyper sophistiqués installés à Parkfield, en Californie. Ça, c'est une zone où l'activité sismique est intense. C'est ce que me disait cette semaine un des membres de cette équipe. Il s'appelle Takaaki Taira. Il est assistant de recherche au laboratoire de sismologie de l'Université de Californie à Berkeley. Il a auparavant travaillé à l'Institut de sismologie de l'Université de Hokkaido au Japon. Je lui laisse le soin de présenter ses résultats.
Nous avons découvert qu'après le séisme de Sumatra en 2004, il y a eu davantage de séismes à Parkfield, mais que leur intensité a diminué. Nous croyons que c'est lié à la migration des fluides souterrains associés aux ondes sismiques. Ces fluides fragilisent les failles, ce qui augmente la possibilité qu'il y ait des tremblements de terre. Nous observons cela pour Parkfield, mais on peut imaginer que ça pourrait se produire ailleurs. Il faut donc faire les mêmes analyses pour d'autres sites. C'est un premier pas pour atteindre notre but ultime, qui est de prévoir les tremblements de terre.
Takaaki Taira du laboratoire de sismologie de l'Université de Californie à Berkeley établit un lien entre le séisme, donc Chantal, de Sumatra en 2004. Ça avait tué de quoi
230 000
personnes
au tsunami. Ouais.
Spectaculaire. Puis l'activité sismique dans l'année qui a suivi en Californie. Et c'est-à-dire qu'il voit vraiment un lien entre les deux tremblements de terre de cette semaine, Chantal?
Eh bien, un bon scientifique, il n'a pas voulu tirer de conclusion faute de données. Il me dit, moi, je vous parle de Parkfield et de Sumatra 2004, je ne vous parle pas de cette semaine. Mais j'ai également posé la question à un autre sismologue, il s'appelle Émile Local. Il est d'accord, on peut difficilement établir des liens faute de données, mais ça pourrait éventuellement changer si on étudiait davantage la question. Alors, cet Émile Local, il est professeur à l'Université Northwestern, basé à Evanston, en Illinois. C'est un spécialiste des tsunamis. Il me disait qu'il n'y a pas a priori donc de lien vérifiable. Il connaît très bien la région, il faut le dire, Yannick, parce que c'est un terrain qu'il visite pour faire des relevés topographiques sur une base régulière après le passage de tsunamis. J'ai d'ailleurs joint Émile Local alors qu'il se préparait à partir pour Samoa. Il rappelle tout d'abord comment réagir si la terre tremble et que vous êtes sur la côte au bord de l'eau.
Si on se trouve sur une côte à la plage et qu'on ressent un très fort séisme, il faut immédiatement évacuer en marchant ou en courant vers les hauteurs à des altitudes d'une dizaine de mètres. Et ça peut être un réflexe personnel qui n'a besoin d'aucune intervention gouvernementale ou scientifique.
Parce qu'on le sent physiquement, on parle d'un phénomène qui se produit à quelques centaines de kilomètres au large des côtes, en profondeur. On le sent sous ses pieds?
À 200 kilomètres, un séisme de magnitude 8 sera ressenti par la population. Il peut même faire des dégâts. Et donc, la population était au courant. Et d'ailleurs, au Samoa, j'ai lu des rapports comme quoi les gens ont évacué. Et certainement, si l'on doit déplorer une centaine de morts, le bilan aurait pu être bien pire si les gens n'avaient pas pris la décision d'évacuer.
On a combien de temps pour réagir?
Eh bien, ça dépend de la distance, évidemment. Mais à 200 km, on a environ 15 minutes. Le tsunami se propage à peu près à la même vitesse qu'un avion à réaction. C'est-à-dire que 700-800 km par heure, donc vous voyez, vous avez à peu près 15 minutes à 200 km.
Dites-moi, ça c'est le gros bon sens, l'éducation, la sensibilisation, mais est-ce que d'un point de vue technique, technologique, scientifique, on a également fait progresser dans les moyens qu'on déploie pour lancer l'alerte, pour détecter, pour prévenir, oui. On ne le peut pas, mais à tout le moins voir venir plus rapidement?
Oui, alors, on a fait des progrès qui s'appliquent et qui sont valables surtout en champ lointain, c'est-à-dire pour des vagues qui auraient été encore plus grandes et qui auraient pu affecter Hawaï, la côte nord-américaine, etc., qui peuvent traverser tout le bassin d'un océan. Alors là, on a fait des progrès parce que, d'une part, on essaye de quantifier le plus rapidement possible les différentes estimations de la magnitude du séisme, le plus rapidement possible et le plus fidèlement possible. Et d'autre part, on a développé un certain nombre de nouvelles technologies qui permettent de détecter la vague elle-même et de ne pas avoir en quelque sorte à étudier le séisme dans ses moindres détails pour décider si une vague a été créée.
Émile Ocal, donc, qui est professeur de sismologie à l'Université de Northwestern, qui fait référence à de nouvelles technologies, hein, Chantal, pour analyser les vagues qui sont associées à un tremblement de terre.
Oui, entre autres, des capteurs sous-marins, des espèces de microphones, si vous voulez, qu'on installe sur le fond des océans qui vont détecter le passage de la vague au-dessus. Avant Sumatra, il y en avait 5 ou 6 dans le monde. Mais depuis 2004, une quarantaine ont été installés dans les océans Atlantique, Indien, Pacifique. Des capteurs qui ont permis cette semaine de donner l'alerte, comme l'explique Émile Local.
Ils ont certainement fonctionné, oui, mais ce sont des instruments qui détectent la vague où ils sont, c'est-à-dire que s'il y en a 40, pour une prévention du tsunami en champ proche, ce n'est pas très utile. C'est beaucoup plus utile pour prévenir le tsunami en champ lointain.
C'est-à-dire, par exemple, avertir les gens à Hawaï qu'il y a quelque chose
avertir
qui pourrait...
Avertir les gens à Hawaï, exactement. Et je pense que ça a assez bien fonctionné cette fois-ci parce que sur la base de ce qu'on a appris du séisme d'une part et de cette technologie qu'on appelle DART en américain, d'autre part, eh bien, on a mis sur le pied de garde les populations de Hawaï et surtout la défense civile à Hawaï. Ils savaient qu'il pouvait y avoir une alerte au tsunami. Et puis après, quand on a eu ces données, quand on les a eu analysées, finalement, on a levé l'alerte à Hawaï où dans le port, je crois, il y a eu 30 cm. Bon, c'est-à-dire que ça n'a pas fait de dégâts. Donc ça a assez bien fonctionné pour ce qui est de Hawaï et des côtes lointaines comme la Californie et même sans doute la Colombie-Britannique.
Donc ce que je comprends, M. Ocal, c'est qu'on a quand même fait des améliorations substantielles depuis 2004 en déployant davantage de ces capteurs. Est-ce qu'on a vraiment un réseau intégré de surveillance planétaire d'alerte au tsunami?
Dans le Pacifique, oui. Dans le Pacifique, ça marche très bien parce que il y a deux centres américains qui ont une responsabilité internationale d'ailleurs. L'un à Hawaï, l'autre en Alaska. Il y a des Japonais aussi et il y a un centre à Tahiti qui ont une grande tradition. Ça marche depuis assez longtemps. Il y a un système qui marche assez bien dans le Pacifique. Dans l'océan Indien, on a commencé à essayer de bâtir un système, mais on se heurte d'ailleurs à une certaine rivalité de tous les pays de l'océan Indien. Il est très très difficile de se mettre d'accord sur qui aura la responsabilité à l'échelle de l'océan entier. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est encore le centre de Hawaï qui est responsable des prédictions dans l'océan Indien. Ce qu'il peut faire d'ailleurs très bien.
Monsieur Ocal, pour un professeur de sismologie qui étudie très sérieusement les tsunamis, des événements comme celui de cette semaine, ça représente un intérêt aussi, un champ d'études particulièrement prolifique pour vous?
Oui, c'est effectivement délicat à dire, ces catastrophes sont pour nous les bases de notre recherche. Chaque fois que nous avons un fort séisme et un gros tsunami, malheureusement, il fait des victimes, mais pour nous, c'est une source de savoir. On va apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois.
Comme quoi, par exemple, dans ce cas-ci, Samoa, qu'est-ce qui vous intéresse?
Dans ce cas précis, écoutez, comme je suis sur le point d'y aller, je ne peux pas savoir ce que je vais y trouver, parce qu'on trouve toujours quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, qu'il faut expliquer. Mais ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est peut-être du point de vue sismologique, même de comprendre ce séisme qui est une déchirure de la plaque par opposition à l'enfoncement de la plaque. Elle s'est déchirée et donc c'est un mécanisme qui est un peu différent. Est-ce qu'on peut... Le grand problème qui nous est posé, c'est de savoir si on peut comprendre la fréquence à laquelle ça va se reproduire. Est-ce que des séismes comme ça va se reproduire tous les 30 ans, tous les 100 ans, tous les 300 ans? On ne sait pas. Et c'est le genre d'étude qui m'intéresserait, moi, personnellement. Nous savons qu'il y en a eu un en 1917, qui était vraisemblablement assez semblable, mais une question qui se pose, c'est entre-temps, est-ce qu'il y en a eu des plus petits de la même façon? Est-ce qu'il y en a eu... tout ça demande à être étudié. Et peut-être même avant celui de 1917, il peut y avoir des techniques. J'ai des collègues qui font de la sédimentologie, ils vont faire des tranchées, ils vont regarder dans les sédiments s'ils peuvent trouver des traces de tsunamis plus anciens, et ça permet d'avoir une idée sur la récurrence de ces catastrophes.
Ils vont pouvoir faire ça donc directement sur le terrain, là, parce qu'il y a eu un tsunami, on sait que dans ce lieu-là, c'est un lieu propice et on va voir ce qui s'est passé auparavant.
Oui, c'est-à-dire que le tsunami, quand il arrive, il amène avec lui des sédiments qui sont déposés. Alors pour qu'ils soient bien déposés, il faut des conditions assez parfaites. Mais par exemple, si vous êtes dans l'estuaire d'une rivière, dans un delta ou dans l'estuaire d'une rivière, il peut y avoir une plaine alluviale. Et quand la vague arrive, un kilomètre à l'intérieur des terres, elle va déposer des sédiments. Alors si vous faites une tranchée, vous pouvez regarder l'empilement des couches sédimentaires. En temps normal, vous avez une sédimentation normale qui vient de la rivière, qui vient des dépôts pluvieux, etc. Et puis, quand la vague de tsunami arrive, elle apporte des sédiments qui sont différents parce qu'elle est plus puissante. D'abord, elle apporte des sédiments marins qui peuvent se reconnaître, il y a des coquillages, etc. Et puis d'autre part, elle peut, du fait de sa puissance, elle peut transporter des sédiments qui sont plus gros, qui seront moins bien triés par leur taille, etc. Alors tous les sédimentologues, ils peuvent reconnaître ça. Et si vous avez des déchets organiques, des coquilles par exemple, de mollusques, vous pouvez dater ces choses-là et voir l'âge auquel ces sédiments ont été déposés et par conséquent reconstruire l'histoire de tsunami sur des échelles qui sont bien supérieures à ce qui est documenté par des archives ou par la tradition humaine.
Émile Ocal est professeur de sismologie au département des sciences géologiques à l'Université Northwestern à Evanston, en Illinois. C'est un spécialiste, donc, on l'a entendu, des tsunamis.
Et il me disait, Yannick, que grâce à la sédimentologie, on peut remonter derrière, là, 1000, voire 2000 ans. Il était en route pour Samoa pour se livrer à toutes ses analyses au moment où je l'ai joint un peu plus tôt cette semaine.
Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Et vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière avec Yannick Villedieu.
Alors, elle est petite avec son 1,20 m de hauteur et elle était plutôt poilue. Elle a de longs bras, des pieds assez singuliers avec leurs gros orteils opposables et elle s'appelle Hardy pour les intimes. Sophie-André Blondin, elle est décidément la vedette de l'heure. On la trouve littéralement à la une de beaucoup de journaux cette semaine et d'au moins un grand magazine et pas n'importe lequel.
En couverture de la revue Science qui consacre à Ardipithecus ramidus pas moins de 11 articles dans une édition spéciale parue vendredi, rendue disponible gratuitement pour tout le monde. Pourquoi tant d'honneur? Mais parce qu'on vient de publier enfin, après 17 ans, les données relatives à la découverte de ce plus ancien squelette d'hominidé jamais découvert. Ce n'est pas le plus vieux fossile humain, mais c'est le plus ancien squelette dont on dispose. Un squelette partiel, mais comme il comprend le crâne avec ses dents, les bras, les mains, le bassin, les jambes et les pieds, comme aussi...
C'est pas mal,
c'est beaucoup.
Oui.
Comme aussi, il a été trouvé dans un gisement entouré des restes d'au moins 36 individus de la même espèce. Le squelette d'Hardy, la petite Ardipithecus ramidus, c'est un squelette plutôt loquace.
Mais qu'est-ce qu'il dit, ce squelette?
Il dit d'abord son âge.
Oui.
Elle avoue son âge, 4,4 millions d'années, 1 million d'années plus vieux que le squelette de l'Australopithèque Lucy. Ses pieds, avec leurs gros orteils opposables, nous disent qu'Ardipithecus était habile pour se déplacer dans les arbres. Mais pourtant, son bassin nous dit qu'il était aussi bipède. Jonas Beyene est préhistorien au département d'archéologie et d'anthropologie du ministère de la Culture en Éthiopie, là où on a fait la découverte. Il est l'un des auteurs des articles sur l'Ardipithecus parus cette semaine dans Science.
Il s'agit d'une espèce qui habitait à mi-temps dans l'arbre, à mi-temps, mais qui n'était pas encore un bon marcheur, qui n'a pas quitté pas encore les forêts.
Et elle ressemblait à quoi?
Elle ressemble, c'est une espèce mosaïque entre les espèces plus archaïques et plus évoluées. Elle a des caractères un peu comme des grandes singes, comme on connaît, comme des chimpanzés.
Mm-hmm.
Et elle est aussi en même temps comme les australopithèques. Alors, elle est une mosaïque, elle est entre les deux.
Qu'est-ce qu'il faut revoir dans nos idées sur l'évolution avec cette découverte-là? Qu'est-ce que ça va changer comme théorie?
Ça va changer. Avant, on avait pensé que l'homme descendait d'espèces qui est plutôt que, comme des chimpanzés, comme des grands singes. Mais maintenant, on sait très bien que ce n'est pas le cas. L'homme et les singes se sont séparés. Pluto et les hommes ont pris leur chemin dans d'autres directions. L'ancêtre commun, c'est quelque chose différent.
On ne sait pas encore c'est quoi.
On ne sait pas encore, il faut travailler encore. Il faudra qu'on voit dans les sédiments qui sont encore plus vieux et les sédiments qui dateraient peut-être, je ne sais pas, de 5 millions, 6 millions, 7 millions.
Et là, je vous parle, vous êtes en Éthiopie en ce moment?
Je suis à Addis Abeba.
Addis Abeba. Et le gisement où on a fait ces découvertes, où est-ce qu'il se trouve en Éthiopie?
En nord-est d'Addis Abeba, dans le Grand Rift de l'Est, d'Afrique de l'Est, dans les pays Afar. Ce sont des... le peuple afar qui habite dans cette région. D'ailleurs, c'est avec la collaboration et l'appui de peuple afar que nous avons pu travailler pendant tant d'années et que nous avons pu recueillir toutes les fossiles et que nous avons pu poursuivre nos recherches.
Et là, vous, vous êtes allé sur le site, vous avez participé aux recherches?
Oui. J'ai fouillé même et, depuis la première découverte d'Ardipithecus, j'étais toujours là depuis 1992.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, madame.
Jonas Beyene, donc préhistorien, que vous avez joint, Sophie André, sur son téléphone portable en Éthiopie. Alors, il faut repartir de plus belle, donc, à la recherche de notre ancêtre commun avec les singes, donc.
Oui, il faudrait aller chercher un ancêtre commun qui est différent et qui est plus ancien aussi. Il faut revoir les chemins évolutifs respectifs des singes et des hommes. Michel Drapeau est paléo-anthropologue à l'Université de Montréal. Elle a fait des recherches sur le terrain en Éthiopie, pas dans ce gisement-là, mais dans d'autres gisements. Elle étudie précisément la période autour de 4 millions d'années, cette période où on trouve Ardipithecus. Alors, comme beaucoup d'autres, elle a lu avec un grand intérêt le numéro spécial de Science.
La chose la plus surprenante, c'est la remise en question du modèle qu'on avait, comment que l'évolution s'était faite, surtout le début de l'origine de la lignée humaine. Pendant longtemps, on a assumé que l'ancêtre commun des chimpanzés et des humains ressemblait probablement quand même beaucoup à un chimpanzé. Suspension sous branche, knuckle walking, c'est-à-dire on marche sur les jointures de la main. Et avec ce fossile-là, selon eux, si on se fie vraiment à leur interprétation, ça remet en question tout ça. Ça dit qu'en fait, la lignée humaine n'aurait jamais passé par ce stage-là, aurait passé d'un stage plus quadrupède sur branche avec une espèce de déplacement lent dans les arbres, directement à devenir bipède. Et toute la phase suspension sous les branches qu'on voit chez les chimpanzés, chez les gorilles, chez les orang-outans, on ne serait jamais passé par ce stade évolutif-là, puis on n'aurait jamais passé non plus par un stade de knuckle walking. Puis ça, c'est bouleversé tous les paradigmes là, qu'on avait depuis des années, puis qui étaient considérés comme relativement bien établis. Là, c'était pas vraiment mis en cause.
Est-ce que ça fait reculer l'apparition de la bipédie dans la lignée humaine aussi?
Pas beaucoup, parce que ça, c'est un fossile qui date d'à peu près 4,4 millions d'années. On savait déjà qu'il y avait des hominidés qui étaient bipèdes à 4,1-4,2 millions d'années. Ce que ça fait, c'est que ça introduit un nouveau mode, si on veut, combinaison de locomotion qui serait être bipède tout en étant arboricole. Donc ça, c'est nouveau. Puis aussi, c'était une bipédie moins habituelle, selon les auteurs.
Vous nous dites, ça nous en apprend sur notre lignée humaine, l'endroit où, finalement, la lignée humaine s'est séparée de la lignée qu'a donné les singes et les chimpanzés.
C'est le moment tout de suite après la séparation. Pas tout de suite après, parce qu'eux proposent, en fait, que la séparation s'est faite il y a beaucoup plus longtemps qu'on suggérait jusqu'à récemment. T'sais, récemment, on parlait de 5 à 7 millions d'années. Eux disent plutôt de 7 à 10 millions d'années. En ayant un fossile à 4,4 millions d'années, on n'est pas si proche que ça là, du point de séparation. C'est vraiment ce de quoi avait l'air cet ancêtre commun-là des chimpanzés et des humains qui est complètement bouleversé, qui est vraiment complètement différent de ce qu'on avait comme paradigme, ce que moi j'enseigne dans mon cours présentement. Il va falloir que je fasse un petit mise à jour. Ben, pas que je dis qu'ils ont nécessairement raison, mais qui remettent en question là, ces choses-là qu'on avait pris pour acquises depuis longtemps.
Alors, dans votre prochain cours ici à l'Université de Montréal, quand vous allez parler de cet ancêtre commun, qu'est-ce que vous allez changer comme information? Comment vous allez le décrire maintenant à la lumière de ce qui est proposé là?
Bien, je vais mettre en doute justement l'idée que on est issu d'un grand singe qui était arboricole en se suspendant sous les branches. Ça, c'est parce que nos plus proches cousins, les chimpanzés et bonobos, mais aussi les gorilles et les orang-outans, les orang-outans sont quand même des cousins assez distants. Nos trois plus proches cousins, tu sais, si on veut, notre plus proche cousin, c'est le chimpanzé. Il a un certain type de locomotion. Puis là, on recule dans le temps, puis on regarde, bon, c'est qui notre plus proche cousin après ça? C'est le gorille, il a ce type de locomotion-là. Puis on recule encore plus loin, c'est l'orang-outan, il a ce type de locomotion-là. Fait que c'était plus parcimonieux, l'hypothèse était que la lignée hominidée était issue d'un grand singe, assez bonne taille corporelle, qui vivait dans les arbres en se suspendant sous les branches. Maintenant, eux disent, non, regardez, on a un fossile qui est clairement hominidé, mais qui n'a pas ces adaptations-là, qui n'a pas d'évidence qu'il n'y a jamais eu ce type d'adaptation-là. Donc, il faut remettre en cause que ce qu'on voit chez ces trois lignées de grands singes-là, c'est parce qu'ils ont tous été hérités d'un ancêtre commun, mais que ça a évolué de façon indépendante dans ces trois lignées-là. Ça donne l'impression d'être un peu moins parcimonieux, mais eux argumentent que de la convergence en évolution, on en voit souvent, et que c'est juste un cas ici où on était un peu aveuglé par les similarités et on a peut-être manqué les différences.
Est-ce que ça nous éloigne des grands singes?
Ça nous éloigne peut-être jusqu'à un certain point des grands singes actuels. On est toujours issu d'une forme de grand singe, mais une forme de grand singe qui est beaucoup plus proche des grands singes très anciens, fossiles, qu'on considérait des grands singes primitifs. Donc, on est plus loin peut-être qu'on pensait là, des grands singes actuels, mais on est issu d'une lignée de grands singes, ça c'est certain.
On a longtemps dit de Lucy, qui est un australopithèque, qui a quand même 1 million d'années plus jeune que Hardy. Est-ce qu'on vient de changer, et on disait de Lucy que c'était la mère de l'humanité, est-ce qu'on vient de changer de mère de l'humanité?
Selon ces auteurs-là, oui. Quoiqu'ils laissent la porte ouverte à la possibilité que Ardipithecus hominidus soit un petit peu un cul-de-sac évolutif. Comme je disais, ils disent que l'ancêtre commun des chimpanzés et de la lignée humaine peut avoir jusqu'à 10 millions d'années. Donc, ça, c'est un 4,4 millions d'années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant 4,4 millions d'années? Peut-être qu'il y a eu, si on veut, afarensis et tissus plutôt d'une lignée plus ancienne. Et qu'Ardipithecus, c'est un peu un cul-de-sac évolutif. Bon, c'est sûr qu'eux mettent l'emphase sur les traits qui sont dérivés, partagés avec les hominidés qui viennent après pour bien montrer qu'il fait partie de la lignée des hominidés puis qu'il y a un lien phylogénétique avec ces hominidés-là. Mais il a probablement des traits dérivés qui lui sont uniques. Presque toutes les espèces en ont quelques-unes. Il faudra voir l'importance de ces traits-là. Est-ce que ça les... Il y en a tellement que ça devient un ancêtre des australopithèques peu probables, ou il y en a très peu qui fait qu'il est assez généralisé, on va dire, pour être encore un ancêtre direct possible des australopithèques. Mais pour l'instant, il est un bon candidat là, pour une autre, plus ancienne grand-mère de l'humanité. Un bon test de leur hypothèse va nécessiter une étude plus approfondie du matériel qu'eux ont. L'étude de ce fossile-là par d'autres chercheurs que ceux qui ont travaillé dessus jusqu'à maintenant. Puis ça, il faudra voir si ça va arriver ou pas. Je suspecte que c'est pas à cause de la publication de ces articles-là que tout d'un coup, ils vont laisser l'accès assez ouvert au fossile. Je suspecte que ça va rester un peu une chasse gardée. Puis à ce moment-là, c'est difficile parce qu'on peut difficilement contester là, le travail d'un autre quand on peut pas aller regarder le matériel original.
Ben, c'est stimulant. J'imagine que pour vous, quelqu'un comme vous, c'est stimulant aussi que ça bouge comme ça.
Ah, c'est très, très excitant, en fait. Tu sais, je lisais ça, j'avais le sourire, juste parce que toutes les choses qu'ils proposent qui sont complètement différentes, qui nous forcent à repenser comment l'évolution s'est passée, et c'est hyper intéressant. Là. C'est captivant.
Merci beaucoup.
Bienvenue.
Vous avez donc rencontré une paléo-anthropologue heureuse,
hein, oui, absolument.
Michel Drapeau, donc, de l'Université de Montréal. Et c'est effectivement, comme elle le dit maintenant, important là, que d'autres équipes, d'autres chercheurs mettent ces nouvelles hypothèses à l'épreuve. Hein, ça
oui,
marche comme
hypothèses,
ça.
Ouais. Par exemple, issues de l'absence de dimorphisme sexuel chez Ardipithecus hominidus. Le dimorphisme sexuel, c'est la différence de taille corporelle entre les mâles et les femelles d'une espèce, la différence de taille des canines aussi. En gros, là, s'il y a une grande différence avec des mâles beaucoup plus imposants qui ont des canines beaucoup plus grosses, on suggère qu'il s'agit d'une espèce où on trouve une certaine agressivité sociale, des mâles en compétition pour les femelles. Eh bien, chez Ardipithecus, on remarque peu de dimorphisme sexuel. Les mâles et les femelles ont des tailles similaires. Les canines des mâles, au lieu de ressembler aux dents très acérées des chimpanzés et des autres primates, ça ressemble plutôt aux canines humaines modernes. Alors, selon Darwin, dans le temps, les longues canines auraient commencé à ratisser avec l'utilisation des outils. Mais là, déjà, on voit qu'il y a 4 400 000 ans, Ardipithecus avait des plus petites canines. Alors, certains auteurs suggèrent qu'Ardipithecus vivait dans des groupes où la solidarité était déjà plus importante que l'agressivité sociale.
Intéressant. Donc, 11 articles offerts gratuitement à tout le monde. La couverture de la revue Science, 47 auteurs. Une annonce, on l'a vu en grande pompe. Ça rappelle le grand spectacle autour du fossile Ida, hein, ce petit fossile de lémur propulsé sous les feux de la rampe en mai dernier. Si
oui, Yannick,
bon, oui.
Mais cette fois, même si des chercheurs émettent un certain scepticisme quant à certains aspects, comme le bipédisme d'Artie Pithecus ramidus, ils sont d'accord pour dire que la découverte est la plus importante et que son impact risque d'être plus durable.
Merci beaucoup, Sophie André.
Au revoir.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir, en deuxième heure, un bar des sciences Radio-Canada Québec Science sur l'école et sur les élèves.
C'est comme le soleil se lève à l'est d'intervenir de manière puissante chez les jeunes de 3, 4, 5 et 6 ans. C'est comme le soleil se lève à l'est au niveau scientifique de ne pas laisser un jeune qui a des retards de lecture ou des problèmes de comportement filer jusqu'en deuxième secondaire pour lui laisser frapper le mur.
Et c'est l'heure du courrier des auditeurs. La question cette semaine porte sur la nutrition.
Oui, bonjour. Je m'appelle Isabelle Audet de Magog. J'ai une question à propos de personnes de mon entourage qui ont modifié leur alimentation en fonction de leur groupe sanguin, suivant de cette façon-là les conseils qu'on leur avait donnés. Là, ça venait souvent d'un ostéo ou d'un chiro ou encore de la part d'un médecin qui avait une espèce de tendance alternative. Je me demande si ces recommandations-là sont fondées sur des recherches sérieuses, parce que moi, ça me laisse plutôt perplexe.
Alors, ce lien entre groupe sanguin et alimentation, c'est l'approche préconisée par le naturopathe Peter D'Adamo. Il soutient que cela peut favoriser le traitement de certaines maladies comme le surpoids, le diabète sucré, les ulcères d'estomac, en plus d'améliorer la santé de personnes souffrant de cancer et, pourquoi pas, de sida. Pour répondre à la question d'Isabelle Audet, Hugues de Roussan a joint la nutritionniste Marie-Josée Leblanc, qui est chargée de cours au département de nutrition de l'Université de Montréal et qui travaille aussi à Extenso, un groupe de référence sur la nutrition humaine.
L'idée derrière cette théorie, c'est que bon, dans notre organisme, on a des antigènes qui sont associés à notre groupe sanguin, ce qui est vrai. Donc, les antigènes peuvent produire des anticorps s'ils sont en présence d'un autre groupe sanguin. Quelqu'un qui a un groupe sanguin A ne pourrait pas recevoir de sang d'un groupe sanguin O parce qu'on développerait des anticorps.
Oui, il serait considéré comme un intrus à combattre.
Exactement, par le système immunitaire. Dans les aliments, il y a aussi des genres de protéines qui peuvent développer des anticorps. On les appelle des lectines. Elles servent un peu de système immunitaire aux aliments, si on peut dire ça de la sorte. La théorie de M. D'Adamo, c'est que lorsque l'on mange des aliments, il y aurait une certaine quantité de ces lectines-là qui réussiraient à passer la barrière intestinale et qui pourraient provoquer la production d'anticorps par notre organisme.
Et est-ce que c'est vrai?
Dans les faits, cette théorie-là n'a jamais été démontrée scientifiquement. Donc, les seuls endroits où ça a été publié, c'est dans les livres que vend M. D'Adamo. Donc, ça n'a pas été reproduit par des études cliniques. Donc, ce n'est pas fondé scientifiquement.
Ce que vous dites, c'est qu'aucune étude clinique a été vérifiée, recontre-vérifiée selon des méthodes scientifiques, n'a pu démontrer qu'il y avait, selon certains groupes sanguins, un certain type de nourriture qui est associé.
Exactement. Dans les faits, la membrane de notre intestin, elle est capable d'empêcher le passage de ces lectines-là dans notre organisme. Donc, on a déjà une protection naturelle. Et en plus, toutes les cellules sont munies d'un système de protection, elles aussi. Donc, il y a des molécules, par exemple, l'acide sialique, qui vont nous protéger contre des antigènes, des anticorps. Donc, on est déjà protégé de façon tout à fait naturelle, là, si jamais il y avait des protéines qui pouvaient encourager la production d'anticorps. Donc, cette théorie-là, si elle existait, il y a longtemps que l'espèce humaine serait en voie d'extinction parce qu'on mange toutes sortes d'aliments et puis on réussit à les digérer et à les métaboliser très facilement.
Dans la théorie de M. D'Adamo, il y a quatre grands groupes sanguins et à chaque groupe sanguin, il y a un type de nourriture qui est favorable et plus ou moins défavorable. Ce que vous dites, c'est que selon toutes les règles de la nutrition et de la science, ça n'a rien à voir avec la nourriture que l'on mange et on peut manger en fait n'importe quelle nourriture du moment que l'organisme l'accepte.
C'est un peu ça. C'est sûr que on a des préférences alimentaires. Certaines personnes peuvent avoir des problèmes de côlon irritable ou, je sais pas, des conditions médicales particulières. Ça, c'est autre chose. Mais vraiment, par rapport au groupe sanguin, rien n'a été démontré scientifiquement jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, moi qui est du groupe O, selon cette théorie-là, bon, je proviens de l'époque des chasseurs-cueilleurs. Je devrais manger beaucoup de viande, ne pratiquement pas manger de produits céréaliers et de produits laitiers.
Mmh.
Donc, c'est assez restreignant pour une personne qui est de mon groupe sanguin comme régime.
Donc, si quelqu'un développe une aversion, une gêne par rapport à un produit alimentaire quelconque, ça n'a rien à voir avec le sang, c'est pour d'autres raisons.
Exactement. Ça peut avoir un lien avec le sang, mais on ne peut pas faire un lien avec le sang et les lectines des aliments, nécessairement. Je vous dirais que ce régime-là n'encourage pas beaucoup l'autonomie de la personne et le développement d'habitudes alimentaires, la recherche de nouvelles habitudes alimentaires, parce que tout est assez dicté dans ce régime. Donc, la personne doit manger tel aliment, ne doit pas manger un autre aliment. Et ça va même jusqu'à ses activités physiques qu'elle doit pratiquer et son mode de vie. Et tout est relié au groupe sanguin.
Et oui, ça a l'air de la science, ça prend les atours de la science, mais ce n'est pas de la science. C'était Marie-Josée Leblanc, chargée de cours au département de nutrition de l'Université de Montréal. Pour nous poser, vous aussi, vos questions de science, vous avez le téléphone ou le courriel. Le téléphone, si vous êtes de la région de Montréal, vous faites le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, vous composez le 1-800-752-9050. Et puis, il y a le courriel, donc, lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière pour terminer la première heure. Et cette semaine, la chronique, c'est Hervé Fischer qui nous la présente. Bonjour Hervé.
Bonjour Yannick.
Pour nous parler d'un anniversaire, d'un 40e anniversaire important. Il y a 40 ans, effectivement, pour la première fois, deux ordinateurs se sont parlé. C'était assez rudimentaire.
Mais oui, c'est extraordinaire. C'était juste un câble. Un gros câble de 4,50 m de longueur entre deux énormes armoires, j'imagine grises ou beige, comme les ordinateurs de l'époque. C'était à l'Université de Californie à Los Angeles. Et c'était la première fois qu'on inventait finalement ce qu'on a appelé ensuite l'Internet, c'est-à-dire entre le réseau entre les ordinateurs.
Mais il y a seulement 40 ans, parce qu'aujourd'hui, quoi, il y a des milliards d'ordinateurs.
Aujourd'hui, il y a au-delà d'un milliard d'ordinateurs. Il y a 3,5 milliards de cellulaires qui sont des petits ordinateurs. Et alors, entre-temps, effectivement, on a de là, de ce 4,50 m de cap, c'est ça qui me fascine, on est rendu au web. Web interactif, planétaire, et on est rendu maintenant au sans fil. C'est-à-dire que finalement, on a une sorte de couverture par satellite, sans fil. En 40 ans, on est passé de ce bout de câble à cette communication sans fil tellement
étendue. C'est fascinant.
C'est prodigieux qu'on était capable.
Je sais que vous aimez bien la Chine, Hervé, c'est vraiment le grand bond en avant qui s'est fait.
Oui, c'est un petit pas, mais un grand bond en avant.
C'est ça, oui.
Un petit câble et un grand pas en avant. Et ça, c'est vraiment... pour moi, significatif de notre époque, de l'âge du numérique, de cette croissance exponentielle dont nous sommes capables à partir du moment où nous maîtrisons les technologies de l'information.
Exactement. Puis il y a aussi 40 ans, un autre anniversaire d'un petit bidule qui semble pas très important mais qui est fondamental, c'est la souris. Ça, c'est incroyable. Donc 40 ans...
On l'oublie, la souris, ce petit mammifère si joliment profilé maintenant, avec même qui n'a peut-être même plus la queue, puisqu'on a aussi la souris sans fil.
La souris sans fil, oui.
Bluetooth. Mais au début, il y a 40 ans, c'est une invention de Engelbart qui avait travaillé longuement là-dessus. C'était une sorte de boîte...
Engelbart qui est un Américain.
Un Américain, oui. Ça, c'est tous des Américains. Là, on est aux États-Unis. C'était une sorte... les photos des premières souris, une espèce de boîte mécano avec deux grosses roues qui fonctionnent horizontalement. horizontalement et verticalement et qui déplace un curseur sur l'écran. Et ça a l'air d'un objet encore très, très ordinaire, mais c'est grâce à cela qu'on a non seulement le petit mammifère d'aujourd'hui, mais qu'on a développé entre-temps tout le système Windows parce que Apple a racheté à Engelbart le brevet de cette souris. Lui n'a pas fait un sou avec.
Sauf peut-être en vendant Apple pour quelques dollars.
Oui, il a eu un ou deux grands prix, mais c'est surtout Apple qui en a fait son beurre, si je puis m'exprimer ainsi, et qui a développé le système Windows, qui est repris maintenant par Microsoft et par tout le monde, et qui nous donne une facilité, une convivialité de communication. Il faut se rappeler l'époque qu'on a connue, nous, notre génération, on avait seulement le clavier. Il fallait programmer tout sur les boutons du clavier. Alors maintenant, cette flexibilité, c'est une invention fascinante aussi.
Et on voit, c'est un bel exemple d'interconnexion des technologies, la souris, plus la capacité de faire communiquer des ordinateurs entre eux, permet des choses encore plus incroyables qu'on avait même imaginé, que même Engelbart probablement imaginait. Je crois que c'était quelqu'un qui imaginait beaucoup.
Oui, en réalité, bien sûr, on n'imaginait pas l'ampleur que ça allait prendre, puisqu'à l'époque, on ne croyait même pas que les gens auraient des ordinateurs personnels.
Ah oui, c'est vrai, on est avant le PC.
même Bill Gates disait, on en aura 5-6, ça coûte trop cher, c'est trop gros. Bon, alors, on a, bien sûr, tout ce qu'on n'avait pas prévu. Mais Engelbart est non seulement un mécanicien informatique extraordinaire, mais il était aussi un philosophe, parce que c'est lui qui a pensé le premier, parmi les premiers, parce qu'on cite aussi Klein Rock, un autre Américain, mais qui a pensé les réseaux numériques dans leur ensemble et qui a pensé qu'on allait pouvoir développer comme cela une intelligence connectée, qui est maintenant un concept très, très à la mode.
Mais qui, à l'époque, était quand même très avant-gardiste. C'était... On est pratiquement dans les années 50-60, peut-être.
Oui, mais même il l'a pensé dans les années 60. Et il n'avait aucune raison de pouvoir le penser avec ce câble de 4,50 m ou avec sa petite souris mécano. C'était vraiment un philosophe. Et là, aujourd'hui, nous sommes rendus, et d'ailleurs, il faut faire attention avec ça, nous sommes rendus avec des gourous qui nous parlent non seulement de l'intelligence connectée, mais aussi connective, partagée, voire collective. Mm-hmm. Alors là, on est rendu dans les grandes utopies du cerveau planétaire, comme Joël Doronet qui nous parle de ça, en une sorte de cortex numérique qui entoure la planète. bien sûr, c'est l'utopie de notre époque. Mm-hmm.
Et ce sont des images. Alors, 1969, 2009, 40 ans, donc des anniversaires incroyables et un bond en avant, comme j'ai dit, fabuleux. Mettons 40 ans de plus, Hervé, 2009-2049.
Là, on parle de 2049. Bon, c'est bien sûr, je ne prendrai pas le risque de me tromper. Je vais juste dire une chose, c'est que l'enjeu à venir maintenant, ce n'est pas de miniaturiser la souris. L'enjeu, c'est vraiment comment le cerveau humain va être capable de maîtriser cette puissance technologique exponentielle. Est-ce qu'il va être finalement l'esclave de ce progrès technologique? Est-ce qu'on va être asservi à un grand ordinateur central, plus intelligent que nous, bien entendu? Ou bien est-ce qu'on va être capable de garder le cap sur les valeurs humaines? Donc, c'est la responsabilité, c'est l'éthique. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette sorte de conscience planétaire? Est-ce qu'on va en faire une éthique planétaire ou bien est-ce qu'on va continuer dans cette sorte de course à la technologie, à la consommation et finalement à l'irresponsabilité en déléguant finalement aux industries de l'informatique qui sont aussi des industries commerciales nos responsabilités. On a un enjeu majeur parce que c'est comme une sorte, moi je dis quelquefois l'invention de l'Internet c'est comme une boîte de Pandore numérique, mm-hmm. ou bien si je passe du mythe grec au mythe de la Bible, la pomme qui nous a donné la conscience, qui nous a donné la capacité de création, mais qui nous a donné aussi le bien et le mal. Mm-hmm. Alors, je crois que quand
on joue démon l'informatique.
Mais oui, mais on retrouve le même mythe fondamental. Et alors aujourd'hui, avec cette puissance, est-ce qu'on va faire le bien, est-ce qu'on va faire le mal? C'est comme la boîte de Pandore, c'est comme la pomme d'Adam et Ève. On retrouve le même problème avec la même, disons, les mêmes enjeux extrêmes.
Hervé Fischer, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de la première heure des Lumières. Je vous invite à regarder ce soir à la télévision de Radio-Canada à 18h30, Découverte. On va vous présenter le premier volet d'un grand dossier sur le cancer, un domaine dans lequel se prépare une révolution, disent nos collègues et néanmoins amis de Découverte. Cela dit, à la radio, après les nouvelles, c'est la deuxième heure des Lumières. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours pour vous présenter votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Alors, un seul sujet en deuxième heure, une seule question. L'école qui ne semble pas bien connaître et surtout pas bien appliquer les résultats de la recherche en éducation. C'est de cette question dont on a débattu en public cette semaine dans un bar de Montréal. Bienvenue à cette édition du Bar des sciences, Radio-Canada Québec Sciences, la première de la saison 2009-2010, un bar des sciences que nous tenons dans notre cher bar, le Barouf, comme d'habitude, rue Saint-Denis à Montréal. Alors aujourd'hui, on va poser une question à la fois pertinente et impertinente. L'école est-elle décrochée? Décrochée des enfants, décrochée des parents, décrochée des connaissances scientifiques sur le fonctionnement du cerveau des enfants aussi? En fait, et c'est là que l'impertinence arrive, est-ce que le vrai décrocheur, ça serait pas le système scolaire lui-même? Alors, il y a beaucoup de monde ce soir pour discuter de ça, et parmi tous ces gens-là, il y a nos invités, nos quatre personnes ressources. Égide Royer, spécialiste en adaptation scolaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval. Monsieur Royer. Ici Michel Janos, directeur du groupe de recherche sur les environnements scolaires à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Monsieur Janos. Un peu plus loin, Marie-Claude Gay du département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, chercheur à la clinique des troubles de l'attention à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Madame Gay. Et également, quatrième personne ressource, Robert Turbide, psychoéducateur à la commission scolaire de Montréal et qui est à l'origine du service d'aide aux élèves ayant des troubles de comportement, répit transit et répit conseil. Je vais commencer avec vous, Robert Turbide, puisque vous êtes le seul à ne pas être à l'université, vous êtes vraiment sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire, effectivement, vu de la place que vous occupez, est-ce qu'on peut dire que l'école a décroché de nos enfants?
En fait, je dirais pas que l'école a décroché de nos enfants, mais je dirais que l'école est en train et continue toujours à se chercher. Je pense que les idées de base par rapport au renouveau pédagogique, par rapport à la nouvelle politique d'adaptation scolaire, fait en sorte que l'école est plus accessible et le succès des élèves est peut-être en meilleure position qu'il l'était il y a quelques années.
Pourtant, de l'extérieur, on n'a pas l'impression que ça oui. s'améliore rapidement ni significativement, je me
trompe, non? Tout à fait. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'on n'a peut-être pas les bonnes cibles actuellement ou on ne tire pas sur les bonnes cibles. Il y a comme un ajout, finalement, à chaque semaine de mesures, mais Il faut un chef d'orchestre à un moment donné, parce que plein de mesures ne font pas que les choses vont nécessairement aller mieux.
Mais chef d'orchestre, normalement, c'est une chef d'orchestre actuellement. C'est une ministre de l'Éducation. Vous dites que
oui.
Elle bat la mesure, mais qu'il n'y a pas nécessairement de musiciens pour la suivre.
En fait, il y a beaucoup de musiciens, mais qui travaillent en solo.
On appelle ça une cacophonie habituellement.
Mais c'est un peu ressemble à ça de temps à autre.
Oui.
Et tant et aussi longtemps que ces bonnes idées-là ou ces idées de ressources-là n'atterriront pas dans les écoles de façon à augmenter un petit peu la réussite scolaire, on aura toujours cette question-là. Alors, le programme L'Épitransit et le service L'Épiconseil sont des services de soutien. Je m'occupe particulièrement de la clientèle en difficulté de comportement, donc c'est évident que c'est une clientèle importante lorsque l'on parle de décrochage scolaire. Il compte pour à peu près 40% des décrocheurs.
On continue notre petit tour de table inaugural. Je m'en vais vers Égide Royer. Dans le numéro de Québec Science, qui est en kiosque actuellement, M. Royer, sur le décrochage scolaire, vous portez, je dirais, un diagnostic vraiment très sévère sur l'école. Vous dites qu'il existe des outils efficaces pour pallier les handicaps comme les troubles d'apprentissage, les troubles de comportement, la dyslexie, etc. Et vous dites qu'on ne les utilise pas parce que les enseignants et les directions d'école ne les connaissent pas. Vous dites que le milieu de l'éducation ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est assez sévère. Est-ce que c'est à lui ou à eux qu'il faudrait faire porter le bonnet d'âne?
Pas nécessairement le bonnet d'âne. L'idée, c'est qu'on fait sensiblement du surplace depuis environ une vingtaine d'années. On est dans des écoles où le fait d'être un garçon est en soi un facteur de risque présentement. On a le tiers des gars qui n'ont aucun des diplômes de secondaire à l'âge de 20 ans, à peu près une fille sur quatre. Mais cette situation-là perdure parce qu'on n'applique pas essentiellement ce qui est connu pour prévenir les difficultés d'apprentissage et de comportement, puis comment intervenir auprès de ces jeunes-là.
On connaît les moyens, on sait quoi faire, puis on le fait pas, c'est ça?
On a un problème de savoir cumulatif à un moment donné en éducation, surtout par rapport aux jeunes en difficulté, parce que la majorité des jeunes réussissent à l'école.
Oui, quand même.
La majorité réussissent. Mais il y en a un certain nombre qui ont beaucoup de difficultés. Écoutez, on pourrait probablement monter les taux de réussite scolaire environ à 80-85% à l'âge de 20 ans, là, chez la majorité des jeunes.
Et c'est combien actuellement?
Je vous donne les chiffres du Québec. Vous avez un garçon sur trois, puis comme je disais tantôt, une fille sur quatre, qui n'ont aucun des diplômes de secondaire à l'âge de 20 ans. Si on applique ce qu'on sait au niveau de l'intervention précoce auprès des jeunes de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui ont des problèmes de communication, de langage, si on ne laisse et de comportement, et si on ne laisse pas accumuler du retard scolaire aux jeunes, et ça, il y a un effet bizarre de la réforme par rapport à cette situation-là, on serait capable d'intervenir de manière beaucoup plus puissante et avoir un impact. L'autre élément, c'est qu'on est dans une société où présentement, les jeunes de 16, 17, 18 ans en difficulté fréquentent l'éducation des adultes. Et ça, on sait présentement qu'il y a un certain nombre de jeunes dans ces âges-là qui ont besoin d'être accompagnés, supportés, puis qui ont besoin même de soins. On a des problèmes de santé mentale là-dedans. Et là, il n'y a plus de service du tout rendu là. On n'applique pas ce qu'on sait pertinemment comme étant efficace pour prévenir les problèmes de lecture et de comportement. Et
donc,
cette question-là nous pose sérieusement un problème.
Quand on ne sait pas quelque chose, c'est qu'on est d'une certaine façon un âne, si je peux me permettre de reposer la question.
Quand on ne sait pas quelque chose, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion d'y être exposé comme tel.
Peut-être.
Et l'autre élément, il y a une question d'autonomie professionnelle. Je vous rappelle qu'on ne va pas chercher nos enseignants au Québec dans le corps supérieur des finissants au collégial. Donc, on pourra parler entre autres de qui est en éducation et surtout quelle est la formation qu'on leur donne. Mm-hmm. Et je suis bien placé pour en parler, je suis directement associé à ça.
Donc, jugement sévère, effectivement. Je continue avec le tour de table. Michel Janose, dans Québec Science également, vous êtes interviewé dans ce numéro spécial. Vous dites qu'il faudrait organiser l'école en fonction des élèves et non pas en fonction des matières. Ça aussi, c'est direct, clair et sévère, non?
Oui, pourtant, c'est comme ça au primaire. Au primaire, on a un enseignant qui s'occupe d'un groupe d'élèves pendant une année. Donc, passé les quelques premières semaines, les quelques premiers mois, il est dans une situation qui lui permet de connaître ses élèves et d'entrer en relation avec lui. Et c'est excessivement important parce que on est des animaux sociaux. Bon, certains sont plus que d'autres, mais on a besoin d'être en relation. Et c'est un support extrêmement important pour les apprentissages. Et c'est pas parce que tout d'un coup, on a un jeune de 12 ans ou 13 ans qui est capable d'envoyer paître ses parents et de crier au besoin d'autonomie qui n'a plus besoin de cette relation-là. Une des difficultés qu'on retrouve à l'adolescence particulièrement, c'est qu'au moment où on a des jeunes qui ont besoin de développer des relations significatives avec d'autres adultes que leurs parents, on les met dans des situations où c'est encore plus difficile de le faire.
Mais vous ne voudriez pas quand même que le secondaire soit organisé comme le primaire avec un professeur qui enseigne la chimie, la physique, l'histoire, la géographie, le français et les maths, non?
Ben, on n'est peut-être pas obligé d'aller aussi loin, mais on pourrait penser qu'un professeur qui aime les sciences, par exemple, soit tout à fait formé pour enseigner les mathématiques de secondaire 3, puis la chimie de secondaire 3. Et ce que ça ferait, puis on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est d'avoir une stratégie très différente de celui du ratio de classe pour permettre justement aux enseignants de connaître davantage leurs élèves. Et une façon de les connaître, c'est de ne pas en avoir 120. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas trentaine d'élèves. Ils ont des grosses classes, on s'entend, des fois surchargées, 32, 33, 34, avec des élèves en difficulté. Mais si on multiplie ça par 4, 5 ou 6 classes, ça ne fait pas seulement 30 jeunes à connaître, ça en fait 150. La capacité d'entrer en relation avec ces élèves-là est structurellement rendue beaucoup plus difficile. Une façon d'y arriver, et c'est là où on parle de ça demande de changer ou de repenser la structure de l'école et de repenser l'école, c'est d'organiser l'enseignement de façon différente.
Alors, je continue avec Marie-Claude Guay de l'Université du Québec à Montréal, qui travaille aussi à la clinique des troubles de l'attention. Ça, c'est l'hyperactivité, Mme Guay, c'est ça, hein, en gros?
Troubles de l'attention avec hyperactivité, oui.
C'est ça, oui. Là aussi, est-ce qu'on peut dire que la science sait quoi faire, nous dit quoi faire avec ces enfants-là et qu'on ne le fait pas nécessairement bien?
L'école est-elle décrochée? Première partie de ma réponse, c'est de dire non. Si on pense aux enseignants, puis si on pense aux professionnels qui œuvrent dans le milieu scolaire, ces gens-là, là, ils ne sont pas décrochés. Au contraire, ce sont, moi j'appelle ça des missionnaires. Ils se retrouvent dans des classes nombreuses avec des jeunes qui ont des problèmes de comportement, des troubles d'apprentissage. Ils se retrouvent avec plusieurs problèmes dans la même classe. Et là, on dit à ces gens-là, vous devez faire une différenciation dans votre enseignement, dans votre pédagogie, alors qu'on sait très bien qu'un enfant qui a une dyslexie, sa façon d'apprendre, là, c'est pas du tout la même qu'un enfant qui a un déficit d'attention avec hyperactivité ou qu'un autre enfant qui, à côté, lui, est surdoué. Donc, on demande à ces gens-là de s'adapter de façon individuelle aux 30 élèves qu'ils ont dans leur classe. Et pour moi, c'est une mission impossible. Là, d'entrée de jeu, je souhaite leur lever mon chapeau parce que c'est un travail colossal qu'ils font jour après jour.
Alors, le bas blesse là, où?
Pour moi, les gens du milieu scolaire ne sont pas décrochés. Le problème, c'est que là où les décisions se prennent, à mon avis, là, on est décroché des connaissances scientifiques. Comment ça se fait qu'au Québec, là, on n'est pas capable de dépister en première année un enfant qui a une dyslexie? Moi, je ne m'explique pas ça, puisque partout dans la littérature scientifique, on sait comment faire. Pourquoi ces connaissances-là ne sont pas appliquées dans le réseau? C'est ça qui est la question. Mais là, je parle de dyslexie, c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'on pourrait parler des problèmes de comportement ou d'adaptation des enfants qui ont un TDAH. Donc, c'est l'application des connaissances dans le système, c'est là, à mon avis, où le bas blesse.
D'accord. Et sur la question spécifique de l'hyperactivité, est-ce que dans ce cas-là aussi, on a des connaissances suffisantes pour dire okay. Oui, il faut faire ça, non, il ne faut pas faire ça, oui, le Ritalin, pas le Ritalin, etc.?
Je vais vous donner un exemple juste avec les enfants qui ont un déficit d'attention avec hyperactivité. Ces enfants-là ont dit leur difficulté principale, c'est de s'organiser. Ils ont de la difficulté à planifier leur action, à s'organiser dans l'action. Et ça va avoir un impact aussi sur leurs relations sociales. C'est des enfants qui vont avoir de la difficulté au plan social. Puis là, on fait une réforme, puis on dit à ces enfants-là, maintenant, pour apprendre, ce qu'on va te demander de faire, c'est de travailler en équipe, d'abord avec les autres, puis il suffit juste de rentrer dans les classes d'enfants au primaire pour voir que les pupitres sont organisées face à face. Ils travaillent en équipe de 4. Donc, on prend un enfant où c'est son déficit central, puis on lui dit, maintenant, avec ton déficit central, là, c'est la méthode pour apprendre. Donc, cette méthode-là de pédagogie par projet où l'enfant doit planifier, s'organiser, où il doit être autonome et où il doit entrer en relation avec ses camarades de classe, pour un enfant qui a un TDAH, c'est très difficile. C'est pas impossible, il peut le faire occasionnellement, mais quand toute l'organisation d'une journée à l'école est faite comme ça, ben là, c'est très difficile.
On a beaucoup de chance de le perdre, effectivement, en route. Ici, madame, première intervention, vous présentez, vous posez votre question, vous faites votre remarque. Madame.
Oui, mon nom est Camille Marchand, je suis une retraitée de l'enseignement, j'ai travaillé 35 ans dans le milieu scolaire, 20 ans au secondaire et 15 ans au ministère de l'Éducation. Je ne crois pas que l'école soit décrochée. Je ne crois pas que les enseignants soient pires qu'ils n'étaient, moi, quand j'ai commencé. Ce que je remarque et qui est positif pour moi, c'est qu'il y a 35 ans, autour d'une table de profs, on parlait beaucoup d'autobus scolaires, on parlait de questions très matérielles qui étaient tout à fait extérieures à mes préoccupations, moi, de prof, de pédagogue. Maintenant, depuis la réforme, avec tous les défauts qu'elle a, et ça, je ne suis pas là pour défendre la réforme, je n'ai pas travaillé au ministère pour défendre la réforme. Je pense ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de pédagogie, on parle d'enfants en difficulté, on parle de rapport à la théorie et on parle surtout de la rapport théorie-pratique, ce qui manque dans les écoles. Comment un enseignant est amené avec des universitaires éclairés, ceux qui sont ici, pas ceux qui viennent me mépriser, moi, dans ma classe, parce que je ne fais pas ce qui rentre dans leur cadre théorique. Et ça, je l'ai vécu.
Ça existe aussi.
Oui. Ce que je veux dire, non, c'est qu'il y a un dialogue à rétablir entre le milieu de la recherche et le milieu de la pratique.
Pascal Milot de Québec Science. Est-ce que je crois comprendre que ce que j'entends ce soir, ça veut dire qu'il y a un peu une génération sacrifiée en ce moment et que dans 10 ans, ça va aller mieux, mais qu'il faut vivre avec ça et quand on a des enfants qui sont dans le système scolaire en ce moment, il faut vivre avec le fait que c'est peut-être une génération sacrifiée?
Monsieur Turbide?
Je serais pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où il y a quand même une majorité de jeunes qui réussissent actuellement. Là où peut-être où j'ai un peu de difficulté, mais en même temps, ce que Mme Marchand dit est vrai, c'est que on a souvent utilisé les classes, les enseignants, les groupes classes, pour arriver à vérifier des hypothèses, dans le fond. Et là, je parle des chercheurs, entre autres. Mais tout ça nous est redonné ces dernières années et on a énormément d'informations qui circulent sur des moyens efficaces, ce qu'on appelle les meilleures pratiques, dans le fond. Mais il y a une cheville qui manque. Il y a quelque chose qui fait que ça n'atterrit pas. Bon, il ne s'agit pas de trouver un coupable. Est-ce qu'on blâme les autorités? Est-ce que c'est la mécanique? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est les universitaires qui ne se sont pas appropriés? Mais les moyens, nous les avons. Et la recherche, elle est beaucoup plus avancée aujourd'hui qu'il y a 10 ans, en fait, là, dans le fond. On a des outils extrêmement importants, mais qui ne sont pas utilisés pour arriver à défaire un peu ce nœud-là.
Monsieur Royer, je vais revenir à vous parce que c'est vous qui avez été le plus véhément en disant l'école, les praticiens ne savent pas ce qu'ils pourraient faire.
Mon point est le suivant. Le ministère a tendance toujours à aller chercher des projets au Québec, de prendre les meilleurs possiblement. Mais si vous êtes chercheur sur le SIDA, vous ne prendrez pas uniquement les recherches sur le SIDA qui se font au Québec. Vous allez voir ce qui se passe dans la communauté scientifique en général. C'est comme le soleil se lève à l'est d'intervenir de manière puissante chez les jeunes de 3, 4, 5 et 6 ans. C'est comme le soleil se lève à l'est au niveau scientifique de ne pas laisser un jeune qui a des retards de lecture, des problèmes de comportement filer jusqu'en deuxième secondaire pour lui laisser frapper le mur. Vous seriez surpris, tout le monde, le nombre de jeunes assis dans une école publique en première secondaire qui ne sait pas lire ou qui sait peu lire. Après que le privé, les écoles à vocation particulière et tous les autres aient pris une bonne partie des meilleurs élèves. On sait à peu près comment intervenir là-dessus au niveau de la lecture, dépistage précoce des jeunes en difficulté de comportement. Le ministère doit absolument coller davantage au niveau des orientations qu'il donne. J'ai été très critique du plan de la ministre. Et dans la formation initiale des enseignants, tout comme un bon médecin est capable de regarder des données récentes sur l'utilisation d'un médicament pour intervenir dans tel type de maladie, il faudrait qu'il y ait au moins un cours sur comment lire de la recherche dans un bac en enseignement de 4 ans.
Je repasse la parole à Michel Janos.
La pauvreté, entre guillemets, de l'utilisation des connaissances issues de la recherche en éducation n'est pas propre au Québec. C'est un problème qu'on voit dans à peu près tous les pays du monde. Il y a quelque chose avec l'éducation qui fait qu'on est dans un monde très artistique. On est dans un monde d'émotions, on est dans un monde d'amour. Si on demande à un enseignant qu'est-ce qu'il fait vibrer dans son travail, il va dire la relation avec mes élèves. On a tous l'histoire d'un enseignant dans notre vie qui était très important. Si on est dans une table, puis vous avez un ami neurochirurgien, puis il veut commencer à parler de son boulot, rapidement, la discussion va tomber parce qu'on tombe dans le trop technique ou dans la mécanique. Si on est un spécialiste en éducation, mais la conversation va s'animer. On est tous des spécialistes de l'éducation. On est tous passés par l'école, on a tous un point de vue. Et il y a des points de vue qui durent, hein, dans nos pratiques éducatives. Alors, par exemple, on va dire, si un élève se comporte mal, une punition et ça fonctionne. Ben, la recherche depuis 50 ans montre que c'est exactement l'inverse. Hein, plus tu punis, moins ça va fonctionner.
Donc, il n'y a pas de coup de pied donc, quelque part qui se perdent, c'est ce que vous dites?
Il y a absolument des coups de pied qui se perdent à plusieurs endroits. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que dans l'acte éducatif, une des choses qu'on a de la difficulté à voir, c'est de la rigueur. Pas de l'intelligence, pas de l'effort, de la rigueur. Une manifestation de ça, c'est assez impressionnant de voir à quel point, par exemple, on est fort à évaluer les jeunes. On est centré là-dessus, mais qu'on a énormément de difficultés à s'auto-évaluer, à examiner dans quelle mesure les pratiques que j'ai permettent de rencontrer les objectifs que j'ai avec mes élèves. Et cette difficulté est au centre, entre autres, de la capacité à implanter des interventions qui sont efficaces. Pourquoi? Parce que plusieurs de ces programmes ou de ces interventions reposent sur une action éducative qui est rigoureuse et qui implique de l'auto-évaluation et d'évaluation.
Oui, ici, Marie-Claude Gay et monsieur ensuite. Marie-Claude Gay.
Je reviens sur cet aspect-là du lien entre comment on peut faire une courroie de transmission entre les connaissances dans les laboratoires scientifiques puis dans nos résultats de recherche à nous, dans nos labos, et l'application dans le milieu scolaire. Et je pense que là où on a un problème actuellement au Québec, c'est vraiment dans cette transmission-là d'informations pour appliquer directement dans le milieu scolaire les connaissances qu'on a en recherche, en fait. Et une des choses pour moi qui est importante, c'est vrai que les enseignants ont besoin de formation et de formation continue. Les enseignants, on faisait l'analogie avec un médecin généraliste, les enseignants, ils devraient être, comme ils sont les premiers au contact de l'élève, ils devraient être capables de dépister un élève dyslexique, un élève qui a un déficit d'attention ou un élève qui a un autre problème d'adaptation. Donc, la formation des enseignants, à mon avis, mériterait d'être intensifiée et soutenue. Pas juste à l'université, mais la formation continue aussi mériterait d'être intensifiée.
Monsieur ici, vous avez demandé la parole, vous présentez, monsieur.
Oui, je suis Michel Laurier, je suis doyen de la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal.
Je voudrais former nos futurs formateurs.
Exact.
Vous avez entendu deux choses ou trois choses depuis le
début,
oui?
quelques petites choses auxquelles j'aimerais réagir, mais avant, je voudrais quand même apporter une note un peu optimiste, parce qu'on a l'impression qu'on s'en va vers la catastrophe. C'est vrai que la question du décrochage scolaire, c'est sérieux, il faut s'en occuper, surtout dans une société comme la nôtre. Mais regardons un peu les progrès que nous avons faits depuis 40 ans. Il y a 40 ans, on a regardé ce qui pouvait se faire dans d'autres sociétés, puis on s'est dit, il faut démocratiser l'enseignement. On l'a fait, on a réussi, on a augmenté sensiblement le taux de fréquentation scolaire.
Oui, c'est sûr, mais ce qu'on dit quand même, c'est que je sais pas, le tiers des garçons n'auront pas leur diplôme de secondaire.
Bon. Notre société a changé. À l'époque, on savait à peu près quoi faire pour améliorer la situation. Maintenant, on le sait encore. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est que depuis une quinzaine d'années, il y a un plafonnement et il y a un écart qui s'accroît entre les garçons et les filles. Et on sait quoi faire. On essaie d'en tenir compte et je pense qu'il ne faut pas trop blâmer non plus les programmes de formation des maîtres. On essaie d'intégrer les résultats de la recherche dans cette formation. Il y a eu des progrès importants qui se sont faits du côté de la formation des maîtres. Mais comme Madame le disait tout à l'heure, il faut aussi regarder du côté de la formation continue. Il faut que les enseignants se voient comme de véritables professionnels qui vont apprendre toute leur vie et qui devront s'adapter à des réalités changeantes parce que notre société évolue.
Allez-y, madame, vous
oui,
vous présentez.
Mon nom est Julie Verdi, je suis enseignante au primaire et doctorante en sociologie de l'éducation. Je pense que le problème est plutôt quand on arrive sur le milieu du travail. On dirait qu'après l'université, après ces 4 ans-là, avec notre bagage extraordinaire, on arrive, puis c'est comme si la formation continue n'existe plus. Alors, on a beau, oui, se reconnaître comme professionnel, oui, on a beau vouloir s'auto-évaluer, être une professionnelle engagée, mais si ça donne rien de m'auto-évaluer, si il y a aucune évaluation qui se fait, si les enseignantes qui sortent du baccalauréat sont relancées dans les écoles où c'est le plus difficile d'enseigner, puis ils vont faire quelques mille, puis après ça, ils vont pouvoir choisir les postes où c'est un peu plus facile d'enseigner. Ou quand on va décider d'aller faire une maîtrise puis retourner sur le marché du travail, ben on va être un peu moins intéressante parce qu'on va coûter un peu plus cher à la commission scolaire. Je pense qu'il y a tout ça aussi. Une fois qu'on est rendu dans le système où la formation continue n'est pas est dévalorisée dans un sens.
Hélène Bruneau, je suis coordonnatrice d'un programme de prévention du décrochage, mais un organisme communautaire qui est partenaire dans une école.
Donc là, vous êtes à l'extérieur de l'école?
Je suis dans l'école.
Vous êtes dans l'école?
Mais communautaire.
D'accord, oui.
Donc, c'est assez particulier. J'entends beaucoup de choses que je dis oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans tout ça. Mais l'affaire que j'ai remarqué le plus, c'est que la relation maître-élève, c'est vraiment là que ça se passe. Moi, ça fait 10 ans que je travaille en prévention du décrochage, avec en majorité des garçons. Puis le regard que l'enseignant pose sur le jeune qui est en face de lui, puis qui lui dit « tu vaux la peine, je sais que tu es capable », ça fait toute la différence. Fait que je pense que si on réforme un bac en éducation, il va falloir y mettre beaucoup de pédagogie et de relations aux jeunes.
Merci madame. Monsieur Royer, vous aviez l'air de vouloir réagir à ça. Égide Royer, Université Laval.
Ça demeure des métiers où la relation, ou même des certaines formes de mentorat devient très, très important, c'est sûr. Mais juste deux éléments. Il y a urgence en la demeure. Lorsqu'il y a certaines commissions scolaires au Québec, où on a environ 30 ou 35 % des garçons qui ont un des diplômes après 5 ans, il y a urgence en la demeure, là. On peut se comparer à d'autres États américains ou à d'autres provinces, puis on va voir quelque chose qui ne fonctionne pas. La deuxième chose, il faut absolument que la science et les connaissances qu'on a, toujours des pratiques exemplaires. Une pratique exemplaire, c'est quelque chose qui tient compte de l'état des connaissances qui a été implanté dans plusieurs endroits et qui a donné à peu près toujours les mêmes résultats. Il va falloir que ces pratiques exemplaires-là, puis la science, nous sortent de ce que j'appelle la pensée magique. La pensée magique, c'est de dire enlever un ou deux élèves par classe au Québec et vous allez voir la réussite scolaire va augmenter. La pensée magique, c'est aussi de dire mettez des quotas d'élèves en difficulté dans nos classes, qu'on n'en ait pas plus que 3 et ça va améliorer la réussite. J'ai passé 2 jours avec 500 enseignants du Manitoba où il y a un modèle total d'inclusion. Il n'y a pas d'école spéciale, il n'y a pas de classe spéciale.
Et ça marche.
C'est une école inclusive. Mm-hmm. On ne parle même pas d'en créer. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il va falloir être capable de voir plus large que ce qui se passe au Québec et de regarder comment les petits des humains apprennent et pourquoi que certains États ont des taux de réussite du high school qui avoisinent 90 % autant pour les garçons que pour les filles.
On a vu la semaine dernière, ça fait les manchettes des journaux, l'intégration de cette petite fille sévèrement handicapée dans une école régulière. Comment vous avez réagi? Parce qu'il y a eu des réactions très...
La réaction, j'ai à travailler partout au Québec, ça aurait été à Sainte-Marie-de-Beauce ou ça aurait été au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou en Gaspésie, il n'y aurait eu aucun problème. Ça allait de soi que la petite fréquente l'école de son quartier, tout simplement. Si j'aurais été au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, ce débat, non. On ne serait même pas posé la question.
Alors pourquoi il y a eu débat?
Il y a eu débat parce que vous avez un réseau d'écoles spécialisées sur l'île de Montréal, qu'on ne retrouve pas nécessairement partout ailleurs, et là, que la nature a horreur du vide aussi. Lorsque vous avez une école spécialisée pour un type de difficulté, le service a tendance à se remplir, c'est ce que je vous dis. Donc, il y a un choix à faire par rapport à ça au niveau des jeunes en difficulté, parce que la majorité des jeunes réussissent à l'école, mais le tiers ou le 20 % qui ont beaucoup de difficultés, il va y avoir des grosses décisions à prendre, mais orientées par des données de recherche.
Marie-Claude Guay, vous voulez continuer?
On identifie depuis tantôt des problèmes, là, puis on tente d'expliquer pourquoi il y a un haut taux de décrochage scolaire au Québec. Moi, j'ai envie de prendre juste 2 petites minutes de réflexion sur quelles seraient les pistes de solutions. Je pense qu'une des pistes de solutions, c'est que quand on décide de faire un plan d'action pour la lutte contre le décrochage scolaire, je pense que les décideurs publics devraient venir nous consulter pour savoir comment on peut appliquer les connaissances scientifiques directement dans le milieu de l'éducation. Donc, c'est une invitation que je leur fais aujourd'hui. Deuxièmement, je pense que c'est important pour nous de s'orienter vers la prévention. M. Royer l'a mentionné un peu tantôt, c'est important d'aller cibler dès le début du primaire, dès la première année, deuxième année, quels sont les enfants qui présentent des troubles d'apprentissage et comment on peut intervenir de façon précoce. Puis je reviens encore avec l'exemple de la dyslexie. Si on intervenait en première année de façon intensive et soutenue pour la rééducation d'un enfant dyslexique, cet enfant-là rendu au secondaire, il saurait lire, il saurait écrire, il pourrait passer à travers son cours secondaire, aller au cégep, aller à l'université, puis devenir un contribuable pour la société. Ça coûterait beaucoup moins cher à la société d'intervenir tôt, d'aider ces enfants-là, plutôt que d'essayer de réparer le bobo rendu à l'adolescence, puis une fois qu'il est trop tard.
Madame, et si vous voulez intervenir, vous vous présentez.
Mon nom est Madame Perpétue. Moi, j'abonde dans le même sens que Madame, dans la recherche des solutions. Je peux vous donner un exemple pour contrer et prévenir le contrôle de décrochage scolaire. Un exemple que j'ai mis en pratique par une organisation que j'ai fondée à la demande des parents, qui s'appelle FEJAD. C'est une fondation pour l'éducation des enfants et jeunes adultes défavorisés. Et que ça marche très bien. Donc, pourquoi? Parce que...
Vous êtes à Montréal, évidemment.
Oui, pas loin d'ici, au centre-ville, hein, ici, aux habitations germanes, parce que j'implique les parents. Donc, une des pistes de solution que je peux partager avec vous et que peut-être que les autres oublient de pratiquer ou d'encourager, c'est l'implication des parents et le rapprochement entre l'école et la communauté. Surtout pour les familles, pour les parents immigrants. Donc, ils viennent sans outils vraiment, ou ils ont d'autres cultures, ou l'éducation est comme c'est un travail juste pour les pères. Et ça commence, c'est là que ça commence, et ça commence tôt. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la relation entre l'enseignant et l'enfant. Mais j'aimerais qu'on n'oublie pas aussi la relation entre l'enseignant et la famille.
Vous vous présentez, madame.
Oui, bonjour. Je m'appelle Annie Desforges. Je travaille pour le CAFOR Jeunesse Emploi du plateau Mont-Royal. Je travaille sur le projet IDEO 16-17, qui vise un peu la prévention du décrochage, promotion de la persévérance, tout ça dans les écoles du territoire. Donc, moi, je travaille dans 3 écoles secondaires, mais c'est ça. En fait, moi, je fais vraiment des suivis individuels avec les jeunes. J'ai des références des écoles.
Vous appartenez à une école ou à la commission scolaire ou?
Au CAFOR Jeunesse Emploi.
Au CAFOR Jeunesse Emploi, d'accord.
C'est le secrétariat à la jeunesse qui finance pour le projet IDEO 16-17. Donc, c'est ça. En fait, moi, il a fallu que je me batte un peu pour faire ma place dans les écoles, tout ça, parce que je venais de l'extérieur. Mais un coup rendu dans l'école, j'ai vraiment des références, puis c'est bénéfique. C'est sûr, c'est du one-on-one, c'est des rencontres vraiment avec le jeune pour voir qu'est-ce qui va pas, pourquoi il s'absente, qu'est-ce qui fait en sorte que justement il accroche pas à l'école. Donc c'est possible justement à ce moment-là de fixer des objectifs puis travailler.
C'est des jeunes qui ont quel âge à peu près?
Entre 15 et 17 ans.
Oui, à un âge où ils ont besoin d'établir des relations avec des adultes significatifs, comme on dit.
Oui.
Et c'est un peu ce que vous faites.
Oui. Mais en fait, c'est ça. C'est pas moi qui ai décidé du barème d'âge, en fait. C'est le secrétariat à la jeunesse qui disait que c'était 16-17. En fait, moi, j'étire un peu parce que je me dis que les 15 ans vont avoir 16 ans bientôt.
Oui, en général.
J'étire.
Vous étiez bonne à l'école, vous, hein?
Oui, ça va bien.
Alors, vous les voyez, vous, donc, ces jeunes qui sont en train de décrocher ou qui vont peut-être décrocher ou que vous réussissez à empêcher de décrocher? Bon. Comment ils expliquent leurs attitudes? Bon. Comment ils expliquent leur décrochage éventuel? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
La plupart des jeunes que je rencontre ne voient pas concrètement à quoi ça peut leur servir dans le moment d'aller à l'école. Ils ne se projettent pas dans l'avenir, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Le projet d'avenir, c'est trop flou, fait que pour le moment, ils ne voient pas vraiment l'utilité.
Oui, madame.
Hélène Bruneau, je voulais vous poser la question. Vous avez dit que faire du dépistage, j'ai des enfants à l'école primaire. J'avais un petit gars qui était en première année l'année dernière. Il est rendu en deuxième année. Vous avez dit que dépister la dyslexie, ça se faisait en première année. À l'école où mon fils va, on m'a dit, ben là, s'il inverse des lettres puis que ça dure jusqu'après la fin de la deuxième année, on verra.
Question pratique à Marie-Claudien, oui.
Puis c'est une école d'enfants relativement favorisée, je vous dirais. On m'a dit, dans cette école-là, il n'y en a pas d'enfants avec des troubles d'apprentissage ou des troubles de...
Il y a plusieurs éléments dans votre question. Je vais quand même juste préciser que les troubles d'apprentissage, ça n'a aucun rapport avec le milieu favorisé ou défavorisé. Hein? C'est des troubles qui sont héréditaires, génétiques. L'enfant est né avec une difficulté d'apprentissage. Et vous avez très bien dans votre question illustré à quel point il y a un décalage entre les connaissances scientifiques puis ce qui est appliqué dans le réseau d'éducation. Votre question est un exemple, une illustration de ce décalage-là. Parce que la dyslexie, ce n'est pas inverser des lettres. La dyslexie, c'est beaucoup plus que ça. Et la dyslexie, il y a des troubles cognitifs qui sont associés, qui peuvent être dépistés dès la maternelle. On peut très bien dire, cet enfant-là, il serait à risque, en tout cas, de dyslexie. Puis si en première année, on voit un profil cognitif qui ressemble à un enfant dyslexique, bien, c'est le temps, maintenant, dès la première année, c'est le temps d'intervenir, de faire une rééducation soutenue. Pas attendre qu'il ait déjà acquis 2 ans de retard. Ça vient d'où, ce 2 ans de retard-là? Là? Si on intervenait tôt, on aurait beaucoup plus de chances que cet enfant-là termine son primaire, aille au secondaire, et la suite.
On continue ici. Madame.
Bonjour, je suis Catherine Bourdin. Je suis la maman de 2 petits garçons en première année et deuxième année. Et justement, on a eu la chance de bénéficier du dépistage d'une éducatrice en garderie. Donc, dès l'âge de 4 ans, ils ont pu voir qu'il inversait justement ou qu'il avait des difficultés avec certains sons. Et donc, tout de suite, on a consulté puis ils nous avaient dit que ça pourrait vous aider pour justement la première année puis l'apprentissage de la lecture. Et donc, on a eu la chance d'avoir cette personne-là. On a pu aussi trouver les moyens pour aller consulter et faire un suivi pendant presque 1 an. Et finalement, c'est ça, ce petit est en première année et il lit très bien maintenant. Mais je peux facilement imaginer que ce qu'il fait comme lecture présentement, il n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas fait cette intervention-là. Donc, je me demande, dans le débat qu'on a présentement, n'est-ce pas une question de ressources? Il se trouve que nous, on a eu des gens pour nous le dire et on a trouvé les ressources financières pour le faire, mais ce n'est peut-être pas tout le monde qui peut l'avoir. Et j'ai l'impression que même pour les professeurs qui sont dans les classes, ils peuvent voir des choses, mais s'ils n'ont pas les ressources à l'école, c'est difficile d'assurer ce suivi-là. Et à l'école où mes enfants vont, qui sont dans un milieu qui est relativement favorisé, il n'y a pas nécessairement non plus ces ressources-là. Ils ont la chance, pour la plupart des parents, de pouvoir consulter à l'externe, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a beaucoup, je pense, une question de ressources, parce qu'on s'entend, à la garderie, ce n'était pas nécessairement... évidemment, ce n'était pas des profs, c'était des éducateurs, mais ils avaient eu la chance d'avoir justement des formations à plusieurs occasions pour être capables de voir ces comportements-là. Donc, merci donc, à ces personnes-là, mais
donc
en même temps, je vois que ça
les connaissances passe. Scientifiques étaient allées jusqu'à eux et ça a permis
on a eu cette chance-là,
ce ouais. beau cas. Je vais peut-être revenir avec nos personnes ressources ici qui, depuis tout à l'heure, veulent réagir. Je les vois sauter. Alors, allez-y, monsieur Turbide. On a beaucoup avancé déjà. Hein? Allez-y.
Oui, mais je vais revenir sur certaines choses. Je trouve ça extrêmement important. L'intervention précoce, pour moi, c'est une majeure. On sait très bien que si un enfant en difficulté de comportement n'est pas suivi et s'il n'y a pas une intervention massive qui est faite, passé l'âge de 8 ans, ça devient de plus en plus complexe et on connaît parfaitement la trajectoire d'un élève qui développe des problèmes de comportement. On connaît très, très bien cette trajectoire-là qui mène à peu près directement au décrochage. Et je vous ramène aussi la question peut-être du rapport Ménard qui pose la question, dans le fond, l'importance de l'éducation pour la société. Où est-ce qu'on place ça dans notre chaîne de valeur, dans nos chaînes de valeur, dans le fond? Il y a une réflexion à faire par rapport à ça.
Merci, Monsieur Turbide. Monsieur Royer, vous vouliez aussi intervenir encore une fois. Allez-y.
Comme société, il va falloir se poser la question, pourquoi de l'autre côté de la rivière des Outaouais, on a pris la décision de dire à tous les jeunes, bien à tous les parents, vous serez en apprentissage jusqu'à 18 ans ou jusqu'à l'obtention d'un des diplômes du secondaire? Et on l'a pris justement comme étant pas la seule mesure, mais ça a été jugé, même si les recherches sont pas nécessairement claires là-dessus, ça a été jugé comme une attente sociale sur le fait qu'on devait au moins être en apprentissage jusque-là.
Ils n'ont pas se retrouvé. C'est pas la même chose, c'est 16 ans au Québec?
C'est 16 ans. C'est 16 ans au Québec, et poursuite aux adultes pour un certain nombre, comme je le mentionnais tout à l'heure. Mais une attente sociale par rapport à ça, là, qui devrait être carrément réaffirmée.
Ça se crée pas tout seul, une attente sociale. Il ne peut pas y avoir un décret ministériel.
Vous ne faites pas les lois, je les fais pas moi non plus. Mais à un moment donné, il y a au moins une vingtaine d'États américains qui ont décidé de le faire. Puis
par des interventions législatives.
Il n'y a pas le choix, c'est une loi. Ça. C'est où vous
et la loi, dit, pas, la loi dit vous
que
devez...
la fréquentation scolaire est obligatoire jusqu'à 18 ans ou jusqu'à l'obtention d'un des diplômes. Et ça signifie que vous n'irez pas travailler au dépanneur si vous avez 17 ans. Vous ne serez pas engagé le jour si vous avez 17 ans et vous n'avez pas de diplôme.
On interdit le décrochage.
Et même, on allait même jusqu'à la question du permis de conduire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous créez une attente ou pas. Et par la suite, vous offrez différents types de services à ces jeunes-là, malgré tout.
Ici, une question, madame.
Annie Desforges, je travaille pour le Carrefour Jeunesse.
D'accord, oui.
C'est en fait juste un questionnement que j'ai. La plupart du temps, tu sais, on dit l'âge légal pour aller à l'école, c'est 16 ans, tout ça. Mais en tant que tel, même si le jeune décroche à partir de 14 ans, il n'y a pas grand-chose qui se fait. En tant que tel, oui, il y a un signalement qui est fait à la DPJ, mais la DPJ ne retient pas. Donc, le jeune se perd.
Oui.
C'est quoi nos pistes?
Bonne moi, question, Mme Marchand.
Moi, ce que je pense que c'est vrai qu'on sait ce que la recherche nous dit, mais on voit les effets. Je vais parler du principe de réalité dans les écoles où, et je vais parler du sentiment d'incompétence des enseignants. D'être devant des élèves qu'on sait être diagnostiqués avec des troubles que je peux même pas nommer parce que je n'ai pas cette compétence et de ne pas pouvoir intervenir. Et d'entendre ces enseignants me dire, ben, je sais qu'il a des problèmes, je sais qu'il apprendra pas, qu'il est pas capable. Enfin, voyez un petit peu le problème que ça. Alors, dans un processus de transformation des pratiques, faut être conscient aussi que les ressources doivent suivre. Les ressources sont pas à la bonne place. Il y en a, mais sont pas toujours à la bonne place. Alors, il faut regarder tout ça dans une vision systémique et c'est pas simple. Vous voyez comme c'est un exemple.
Dans les
mais monsieur Royer, est-ce que vous avez une réponse à ça?
Alors, on vous envoie la question, M. Royer. Voilà, le microphone arrive.
On a assisté à une déprofessionnalisation dans les écoles québécoises depuis un certain nombre d'années. Le filet de services professionnels est trop mince pour être en mesure d'avoir un impact significatif concernant la question de la réussite scolaire, des jeunes qui décrochent parce qu'ils n'ont pas de but, ou des jeunes qui décrochent parce qu'ils sont en difficulté.
Parce qu'on peut décrocher sans avoir de problème d'apprentissage
majeur. Oui, on peut tout simplement trouver ça trop ennuyant, non signifiant, préférer aller travailler à 16-17 ans, puis on y va comme ça. Concernant l'âge de fréquentation, c'est évident que les exemples que vous donniez, écoutez, je remettrai l'âge de fréquentation à 22 ans ou à 10 ans ou à 15 ans, ça ne change rien pour un certain nombre de jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est comme si on croit vraiment que au 21e siècle, on a besoin d'avoir une formation solide pour être en mesure de contribuer socialement, etc., il faudrait au moins que, comme attente, on ait ça, qu'on apprend au moins jusqu'à 18 ans. Selon moi, on augmenterait, si vous avez une hypothèse de recherche à donner, on augmenterait de 3 à 4 % sur une période de 5 ans le nombre de jeunes qui arrivent à 20 ans avec un des diplômes du secondaire. Ça devient une attente. Parce que le jeune qui branle dans le manche et qui se dit à sa mère ou à son père, « Moi, là, écoute, j'ai 16 ans, là, je t'écœure, ça ne me tente plus d'y aller. » Au moins, le parent aurait toujours au moins cet aspect-là en disant, « Écoute, mon grand... que tu veuilles que tu le veuilles pas, là. Ton permis de conduire, c'est à 17-18 ans. Tu vas acheter de la loterie à 18 ans. Tu vas acheter de la boisson à 18 ans. Mais tu vas aller à l'école, j'ai 18 ans aussi.
Alors, on continue dans la salle. Monsieur, vous y allez?
Oui, Michel Laurier. On a parlé beaucoup de la question du dépistage précoce. On a parlé un peu, mais peut-être pas assez, du fait qu'il faut non seulement qu'on outille nos élèves pour qu'ils continuent en début de parcours jusqu'à la fin de leurs études, mais il faut aussi, un peu plus tard, faire en sorte qu'ils y restent dans ce système d'éducation. Et c'est toute la question de la motivation pour l'école. Et là, le problème se présente particulièrement au secondaire. Dans le fond, quels sont les déterminants qui font qu'un élève va être motivé ou non à rester à l'école? Des jeunes qui reviennent en disant « c'est plate l'école », mais il y a peut-être une intervention à faire de ce côté-là. Effectivement, des problèmes qui traînent depuis très longtemps, qui auraient dû être dépistés plus tôt, font en sorte que les élèves se sentent dépassés par l'école. Et c'est aussi toute la valorisation sociale qu'on attribue à l'école. Peut-être que le principal mérite du plan de la ministre, c'est d'avoir mobilisé un certain nombre d'intervenants sociaux qui ne sont pas nécessairement du milieu de l'éducation. Ça peut aider, mais on a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Il faut que, socialement, on perçoive que de poursuivre des études jusqu'à la fin du secondaire, ça vaut la peine.
On s'en va dans la salle au fond, madame. Oui. Vous présentez.
Stéphanie Simard. Moi, je suis étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique. Mon projet de doctorat, c'est d'évaluer un programme dit d'intervention psychosociale ici à l'école secondaire Jeanne-Mance. C'est pas nécessairement des gens qui ont des troubles d'apprentissage, mais plus des jeunes qu'on dirait à risque de décrochage. C'est un programme exceptionnel, extraordinaire, qui est chapeauté par un gars qui s'appelle Martin Dussault. C'est l'utilisation du sport pour garder les jeunes à l'école
On parle de motivation, on parle de but. Ces gens-là ne voient pas nécessairement l'intérêt à aller à l'école, vous donner le sport comme but, d'aller jouer professionnel, d'aller jouer aux États-Unis. Ça leur prend une motivation pour rester à l'école. L'utilisation du sport est extraordinaire. Il y a très peu de recherche qui est faite là-dessus. Et on ne parle pas de sport-études, on parle vraiment de travail social, d'intervention psychosociale. Utiliser le sport chez les garçons pour les garder à l'école. On essaie d'évaluer ce programme-là, on essaie de montrer que ça peut être un bon moyen, très difficile à démontrer, mais il y a vraiment une avenue là-dedans pour les jeunes à risque.
Je poserai une question qu'on ne devrait pas poser scientifiquement, mais à l'œil, est-ce que ça a l'air de marcher pour l'instant?
Extraordinaire. C'est passé 3 heures avec ce gars-là, qui chapeaute le projet, qui l'a monté de A à Z, il va vous dire qu'est-ce qu'il a réussi à faire, puis vous allez tomber en bas de votre chaise, là.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, allez-y, monsieur.
Mon nom, c'est Marc-Alain Soucy. Je suis journaliste, puis j'ai un baccalauréat en pédagogie, j'ai enseigné. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est pas qu'il y a 40 % de décrocheurs, c'est qu'il y en a 60 % qui restent là. Parce que je veux vous dire, l'école secondaire, c'est plate. J'ai entendu un monsieur l'admettre ici, j'étais bien content d'entendre ça. Moi, personnellement, j'étais à l'époque où c'était pas encore... aussi problématique, mais ça a été l'enfer pour moi, l'école secondaire. J'ai réussi à aller à l'université parce que j'ai réussi à passer au travers du secondaire. C'était l'enfer. Alors, je voyais aujourd'hui les jeunes. Moi, j'ai un fils qui a aujourd'hui 23 ans, qui est chef cuisinier. Il y a eu 80 % tout le temps qu'il était à l'école. C'est pas un décrocheur, mais je considère que l'école lui a nui, dans le sens qu'il n'y a plus l'intérêt d'étudier après, malgré des bonnes notes. C'est pas un décrocheur. Il rentrera jamais dans les statistiques. Mais j'aurais aimé ça que l'école, même s'il a réussi, lui donne le goût d'étudier plus loin, d'apprendre. Puis je pense que c'est un grand échec de notre système d'éducation.
Alors on s'en va donc vers la fin de ce bar des sciences Radio-Canada Québec Sciences. On va faire comme on le fait d'habitude, on va refaire un dernier petit tour de table avec nos personnes ressources. Si vous voulez, je vais commencer dans le sens qu'on a pris tout à l'heure. Robert Turbide, donc, psychoéducateur à la Commission scolaire de Montréal, à l'origine des services d'aide aux élèves ayant des troubles de comportement. Vos mots de conclusion, M. Turbide.
Bien, d'abord, peut-être revenir sur l'idée de tenir compte de l'ensemble des catégories d'élèves, ajouter à la formation des maîtres une connaissance de ces types de clientèle pour mieux les comprendre, mais aussi pour mieux intervenir, pour avoir des interventions qui soient le plus juste possible, pour éviter un sentiment d'incompétence qui est souvent attaché à un élève qu'on n'a pas réussi à aider. Je pense aussi à un rapprochement entre l'école et la famille. Il y a là, selon moi, un nécessaire partenariat. Et pour terminer, on n'a pas parlé beaucoup d'interventions, mais des interventions multidimensionnelles, c'est-à-dire des interventions où on prend en charge l'enseignant, le parent et l'enfant. Ce sont des interventions qui sont extrêmement payantes. Et l'enfant ne portera pas l'ensemble des problématiques qu'il y a autour des comportements qu'il agit à l'école.
Merci, M. Turbide. On passe à Égide Royer, spécialiste en adaptation scolaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval. Vos mots de conclusion, M. Royer?
Essentiellement, intervenir tôt, avoir une obsession sur le développement de l'habileté ou de la compétence à lire, savoir lire. Et créer le plus tôt possible un sentiment d'attachement du jeune et de ses parents avec l'école. Et si on prend ça dans son ensemble, ça implique d'avoir une école qui est capable d'avoir des choses, d'offrir des services qui sont assez variés, des activités parascolaires qui sont renforçantes, une école où les parents sont les bienvenus, ont même l'impression d'être chez eux quand ils y rentrent. Et par rapport aux jeunes qui arrivent au début du secondaire, maintenir ce sentiment d'attachement-là, mais comme le disait notre collègue tout à l'heure, qu'est-ce que ça me donne d'aller là? C'est être capable de donner un sens, de répondre aux besoins, de les accompagner dans un projet de manière, et je conclue ainsi, qu'au Québec, le plus rapidement possible, 85 % des gars et des filles puissent dire à 20 ans, je suis détenteur d'un diplôme de... où je suis plombier, je suis technicien, je suis... Mais j'ai réussi une base d'apprentissage me permettant de poursuivre dans la vie. On ne peut pas rester avec un tiers des gars incapables de compléter cette phrase-là présentement. Ça relève du scandale.
Michel Janos, donc, directeur du groupe de recherche sur les environnements scolaires à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Vos quelques mots de conclusion.
En complémentarité de ce que mes collègues ont dit, je dirais que on doit absolument maintenant repenser, reconsidérer l'école secondaire telle qu'elle s'offre aux jeunes. On a atteint les limites de ce qu'on est capable de produire comme enfant motivé et persévérant avec le modèle pédagogique et surtout l'organisation et les pratiques éducatives qui sont dominantes pour le moment. Les études scientifiques partout dans le monde montrent qu'à partir particulièrement du début du secondaire, pour un nombre important d'élèves, on assiste à un déclin systématique de la motivation et de l'engagement scolaire année après année. Quand on assiste du passage du primaire au secondaire, il y a quelque chose qui se passe dans notre capacité collective à répondre aux besoins des jeunes. Un consensus dans la littérature scientifique, c'est que le décrochage scolaire est issu d'un processus de désengagement. Ce processus de désengagement peut commencer très tôt, dès les premières années du primaire, si les difficultés commencent. Mais ce qui va se vivre au secondaire, au moment où le jeune est capable de se projeter dans l'avenir, de commencer à faire des liens, c'est la pensée formelle dans le développement de la psychologie, à partir du moment où le jeune est capable de commencer à faire des liens entre « mais qu'est-ce que l'école m'apporte? Quel est mon avenir si je continue? » À partir de ce moment-là, le lien entre l'offre éducative et la capacité des jeunes est au centre du processus de décrochage. Et de toute évidence, on connaît des expériences dans le monde qui ont été efficaces pour réduire ce niveau de désengagement. Et je pense qu'on est rendu maintenant au Québec, à l'heure où on devrait avoir le courage de la repenser, notre école secondaire.
Merci beaucoup, Michel Janoz. Et je termine avec Marie-Claude Gay. Donc, dernière conclusion. Marie-Claude Gay, du département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, chercheur à la clinique des troubles de l'attention à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Votre conclusion, Madame Gay?
Comme dernière conclusion, j'aurais envie de dire que pour répondre à la question « l'école est-elle décrochée? » À mon avis, non. L'école n'est pas décrochée, mais elle est démunie. Elle est démunie en termes de connaissances qu'on a identifiées, puis en termes de ressources aussi. Il faudrait donc multiplier les psychologues qui pourraient faire les évaluations des troubles d'apprentissage comme la dyslexie, la dyscalculie, la dysphasie et autres. Et il faut multiplier les autres professionnels spécialisés aussi, comme les orthopédagogues, qui pourraient intervenir de façon précoce pour rééduquer les jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage, donc qui sont à risque de décrochage.
Eh bien, merci à vous tous pour cette excellente discussion. J'espère que les autorités pourront nous écouter. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Merci au Barouf de nous avoir accueillis. Et merci donc à cette très belle... très belle rencontre dans le bar des sciences Radio-Canada Québec Science. Et à la prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années Lumière, une émission réalisée par Dominique Lapointe, avec à la technique en studio Michel Potvin et au bar des sciences Sylvain Labrec et Martin Boulanger. Les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussin et Chantal Srivastava, journaliste au site internet Lily Marin, chroniqueur Hervé Fischer. Je prends quelques secondes pour vous signaler que commence cette semaine, plus précisément mercredi à 20h à RDI, à la télévision de Radio-Canada, une série de 10 émissions d'une heure intitulée « Artisans du changement » et qui nous montre comment on relève le défi du développement durable aux quatre coins du monde. C'est une coproduction franco-québécoise pilotée par RDI et Ushuaïa Télévision. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Bonne semaine à notre antenne et à dimanche prochain pour une autre édition des Années Lumière. Au revoir.